Vous écoutez
RMC. RMC, 18h-20h, Roten sans flamme.
Benoît Boutron, Jérôme Roten.
18h tout pile sur RMC, bonsoir à tous, bienvenue dans Roten sans flamme. On est là, on est bien, on reprend nos habitudes dans Roten sans flamme. C'est un régal de passer 2 heures avec vous, 2 heures à partager notre passion du foot. Beaucoup d'actu encore aujourd'hui, donc on va enchaîner tout ça dans l'émission pendant 2 heures avec un casting de fou. Et je suis content de retrouver beaucoup de gens autour du plateau. Aujourd'hui, bah, comme d'habitude, c'est Benoît Boutron. Salut Benoît.
Salut Jérôme, salut à tous.
Ça va, Benoît ?
Oui, un grand merci Jérôme, de ta part, de la mienne, pour tous ceux qui nous ont adressé des messages, des condoléances pour Coach Courbis.
Exactement.
Bel hommage hier que vous pouvez réécouter en podcast. Et très belle initiative de la direction d'RMC, puisque le studio dans lequel on se trouve aujourd'hui, le studio numéro 5 de ce bâtiment, s'appelle désormais le studio Roland Courbis.
Ouais.
Donc voilà, on est donc en direct du studio Roland Courbis.
Pour on cette est là. Émission. Voilà, il est avec nous. Et
exactement,
il sera tout le temps avec nous.
Toujours avec nous.
Ouais. Tant que Roten sans flamme existera, tout il sera avec moi à côté. On est avec Steve Savidan. Salut Stevie.
Salut tout le monde, salut mon GG, j'espère que tu vas bien. Tous mes vœux de vive voix. Hein,
ah bah oui.
Par petit message.
Exactement.
Donc voilà.
Salut Stevie. Pareil.
On attaque au taquet 2026.
Ah, mes vœux de bonheur aussi, Stevie, à toi.
Santé
et à ta petite
après
famille.
Le reste, on se démerde. Hein.
Ouais, exactement. On est avec le dinosaure, on est content de le retrouver. Jean-Michel Larquet, salut Jean-Mi.
Bonjour à tous.
Bonjour Jean-Michel.
Bonjour. Enfin, les véritables amis, j'espère.
Oui, j'espère.
Le mec d'entrée s'embrouille.
Ouais. Ah oui.
Mais oui, on
est. On fait partie des véritables amis alors.
Ouais. Après,
connaissance,
on verra sur la durée. On va voir sur la durée. On va voir.
C'est pas sûr encore.
Sur la durée, ça fait déjà un bout de temps.
Déjà sur la durée, ils sont pas dans les macarons.
Ouais. On te traîne, hein, Jean-Michel.
Est-ce que Jérôme fait partie de tes véritables amis, Jean-Michel?
Après les verres, oui.
Rigoler à la blague de Steve, quand même.
Qu'est-ce qu'il a dit?
Qu'est-ce qu'il a dit?
Oh, bah ouais. La durée, ils sont pas dans les macarons.
Bon, ah, excellent.
Excellent, ça commence bien.
Ah ouais, ça part au taquet. Voilà.
Bah, tu sais, quand tu suis au Moscato Show, tu gardes pendant 2-3 minutes, tu sais, c'est l'énergie, tu vois.
Steve, on t'a dit pas de blagues comme ça.
C'est vrai. Voilà, putain, je suis en train de taper sur la main là.
Les audiences sont bonnes.
Ouais.
Alors, va pas me plomber tout ça en 2026. Déjà, on vous remercie parce que les audiences sont tombées.
Plomber tout ça avec des macarons.
Et on vous remercie vraiment. Tous les auditeurs parce que et auditrices bien sûr, on a cartonné et c'est bien, on est
exactement
content.
Le Paris Saint-Germain est éliminé de la Coupe de France. La Coupe de France 2025-2026. Oh. Un grand Roten sans flamme ce soir.
Tu le dis avec le
rictus. À 19h, Roten se chauffe. Est-ce que la Coupe de France doit devenir la priorité de l'Olympique de Marseille? Bam! Supporters marseillais, on vous attend. Ce soir, il y a ce match à Dornano face à Bayeux, le petit poussé club de Régional 1.
Tu l'as déjà mis en fond d'écran, toi.
Bah oui.
Oh, il est fou, ce mec.
Avec le maillot et tout. Est-ce que c'est l'année ou jamais pour l'OM? 32-16 à 19h. À 18h45, l'un des héros du Paris FC sera avec nous, Ilan Kebal. Il rentre tout juste de la Coupe d'Afrique des Nations, disputée avec l'Algérie.
Il est rentré, petite galette.
Et ouais,
voilà,
il va tout nous raconter.
Décisive,
Ilan Kebal, magnifique, super joueur qu'on adore.
Il y avait juste la place pour le mettre. Hein,
ouais.
Pour
après, il y avait Darry Cole dans les buts du PSG, donc il fait pas un arrêt.
Lucas Chevalier, on l'avait encensé après le trophée des champions.
Oui, écoute.
Bon, on en parlera tout à l'heure, de toute façon. Et puis à 18h30, l'autre actu foot de la journée.
Hein?
Qu'est-ce qu'il y a, Jean-Michel?
Ça, c'est la première. Voilà,
c'est ça.
La première fois où on est passé. Là.
On va ouvrir le procès à 18h30 de Florentino Pérez, accusé de donner trop de pouvoir aux joueurs du Real Madrid. Changement d'entraîneur, vous avez suivi ça hier, vous l'avez appris dans Roten sans flamme. C'est terminé pour Xabi Alonso, c'est Alvaro Arbeloa qui va prendre sa place. Les premiers mots d'Arbeloa, justement, il veut que tout le monde reparte à zéro. Donc on verra s'il arrive à mener cette équipe du Real Madrid.
Exactement. Lui, on va pas tarder à repartir. Lui.
Il allait chercher loin, c'est là. On repart à zéro.
Ça y est, il faut faire ses preuves pour jouer au Real Madrid.
C'est pas 2-0.
Allez, 18h05 sur RMC. Tout de suite, Jérôme. Le PSG s'est raté hier soir.
On en rira quand on verra sous un jour meilleur.
La frappe enroulée de Barcola. ça va passer juste à côté.
C'est pas possible. La tête de Zavardi juste à côté. Oh, quelle occasion pour le Paris Saint-Germain.
C'est pas possible.
Le centre débarque là.
Oui,
vers
oui,
Pérédo, oh, ça passe à côté. C'est pas possible. La frappe de Vitinha. Et l'envolée de Cambadio.
Oh là 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 là, c'est pas possible.
C'est la stupeur au Parc des Princes avec Jonathan Ikoné qui vient marquer au bout d'un superbe mouvement. C'est terminé. Le Paris Saint-Germain, double tenant du titre, éliminé par le Paris Football Club.
Ce soir, c'est un prank. C'est un prank, c'est un horrible prank. Quand je vois les attitudes de certains ce soir, je peux pas être ravi, je peux pas être content.
Le PSG fait ce qu'il peut. Je te dis que c'est pas parce que tu démarres avec une équipe type que tu aurais obligatoirement gagné ce soir.
Ah mais c'est
compliqué à comprendre ça.
Non, on a tout compris, coach Corbis. Le premier accro de la saison pour le Paris Saint-Germain, cette élimination en Coupe de France face au Paris FC au Parc des Princes hier soir, défaite 1 but à 0 contre le cours du jeu, il faut le dire, mais il fallait remonter à la saison 2013-2014 pour voir le Paris Saint-Germain sortir de la Coupe de France en 16e de finale. Parlons-en avec Arthur Perrault qui est avec nous. Salut Arthur.
Salut messieurs.
Salut Arthur.
Bonsoir à tous et à tous.
Alors comment on explique cette défaite au PSG?
Oui, première victoire de son histoire du Paris FC face au PSG. Le double tenant du titre est éliminé sur un but inscrit, vous l'avez entendu, sur une contre-attaque en fin de match. De quoi agacer l'attaquant Seni Mayolou en zone mixte dans la foulée de la rencontre.
On a eu des occasions, on n'a pas réussi à finir, que là on se prend une claque, mais on va rebondir. Un match, c'est une compétition, on veut tout gagner, du coup c'est quand même casse-pied.
Pourtant, le champion d'Europe a dominé les débats, 12 frappes au total, 68% de possession de balle, une défaite synonyme peut-être d'avertissement dès le début d'année. La réponse de l'entraîneur Luis Enrique.
Si tu regardes les résultats, peut-être, mais si ce que j'ai vu pendant tous les matchs, on a été très supérieurs. C'est comme ça le football, ce n'est pas juste, tu dois savoir perdre, et en ce cas-là, c'est clair pour moi que c'est un résultat tellement bizarre.
Une élimination du PSG en Coupe de France, ça n'était plus arrivé depuis 12 ans, tu l'as dit Benoît, et le Montpellier d'un certain Roland Courbis.
Merci Arthur, c'est la une de Rotten sans flamme ce soir. Est-ce que cette élimination est embarrassante pour le Paris Saint-Germain? 32-16 pour participer avec nous. Jérôme.
Embarrassante, oui, c'est le bon mot. On a cherché le thème du jour.
On a démarré par faute professionnelle, s'est dit c'est peut-être un peu fort.
Faute professionnelle, c'était toi.
Mais
embarrassante, oui, pourquoi? Je vais t'expliquer pourquoi elle est embarrassante déjà dans le contenu, parce que moi je veux bien qu'on me dise que le PSG a dominé. Oui, le PSG a dominé, encore heureux qu'il domine contre le Paris FC qui lutte pour le maintien. En termes d'effectifs, moi on m'a expliqué qu'il y avait du turnover du côté du Paris Saint-Germain et que c'est normal, mais bon, moi j'ai pas constaté qu'il y avait un véritable turnover sur le match d'hier. Il y a beaucoup de joueurs
quand même.
Ah bon, mais
Pacho arrière gauche,
à part Pacho arrière gauche, mais bon, Pacho arrière gauche, c'est comme si tu jouais avec Beraldo arrière gauche, il l'a déjà fait, pourtant il a été dans l'axe et ça a libéré Zaïre Emery de l'autre côté. Donc en gros, ça c'est de la gnognotte.
C'était pas énorme non plus.
Quand même les gars, vous allez pas me dire que c'est parce que Pacho a joué arrière gauche que le PSG a pas réussi à gagner. Non mais alors là, c'est fort de café de faire ça. Le milieu de terrain, il y a deux joueurs titulaires dans ce milieu, c'est Ruiz et Vitinha. Il y a Mayulu qui a beaucoup joué, et Mayulu, vu l'exigence et les performances de Mayulu tout au long de l'année dernière, où ça a été même surprenant, c'est normal qu'il ait du temps de jeu et qu'il arrive et qu'on espère qu'il fasse des différences contre le Paris FC, encore une fois une équipe qui joue le maintien. Et la ligne d'attaque, c'est que des internationaux, Gonzalo Ramos, Kvaratskhelia à droite et Barcola à gauche. Donc c'est vrai que pour une équipe, c'est une équipe de minots, de Titi parisien. Non mais faut pas déconner, et t'as ton gardien titulaire dans les buts. Donc j'imagine, et en plus de ça, t'as sur le banc des joueurs qui sont rentrés, qui sont des titulaires en puissance.
Doué, Nuno Mendes.
Voilà, d'un seul coup. Quand tu les vois, les trois rentrés, franchement, j'étais au parc, dans les tribunes, j'ai vu les trois rentrés, je dis, ouah. Alors, le PFC, Gilly, il a fait ses changements. Tu vois ces trois là rentrés, tu te dis, bon, bah, alors là, bon courage pour le Paris FC. Et puis, à l'arrivée, c'est eux qui marquent et qui tiennent. Et ils tiennent avec de l'efficacité, c'est sûr, de la réussite, avec un gardien, et comme très souvent ça arrive, une équipe qui défend, qui passe son temps à défendre, un gardien qui se chauffe, et qui chauffe, et que plus ça allait, plus il fait des résultats, c'était Jésus dans les buts, mais peu importe.
Ah, pourquoi après, c'est embarrassant, alors?
C'est embarrassant parce que dans le contenu, sur la première mi-temps, par exemple, t'as un faux rythme qui se met en place, comme trop souvent au Paris Saint-Germain, au Parc des Princes, depuis le début de l'année.
La suffisance.
Et que moi, on m'a expliqué. Alors, je sais pas, Steve, si c'est de la suffisance ou autre chose. Ce qui est sûr, c'est que tu dis pas très fortement qu'aujourd'hui, parce que les dirigeants, ils ont du mal à le dire, les joueurs, ils vont pas le dire, la preuve, et quand t'entends Maiolo, tu te dis, mais Maiolo, il a fait un super match, et puis ils sont malheureux, ils sont pas efficaces, alors que ça a été totalement l'inverse, et que lui, au lieu de venir parler au micro, il devrait venir peut-être aller direct, rentrer chez lui, se reposer et se remettre en question, parce que le début de saison, il est quand même très très moyen de sa part.
T'as des doutes,
et que, voilà, ouais. Non, mais aujourd'hui, plus que l'année dernière, ça c'est sûr, et il y a une déception. Mais la déception, moi je te dis, où c'est embarrassant, c'est collectivement, le PSG collectivement ne dégage pas autant de force que tout au long de l'année dernière, et pas que sur les 6 derniers mois, les gars. Moi je vous le dis, dans le pressing qu'ils veulent mettre en place, dans la façon de faire circuler le ballon, dans le fait d'être exigeant, d'être efficace offensivement, c'est pas normal de voir des joueurs comme Barcola par exemple, parce que lui, je stigmatise là-dessus, et je vais donner la parole à Steve et à Jean-Michel parce que je suis trop long, mais Barcola sur la première mi-temps, il est à côté de moi, il est face à moi. 5 ballons de suite, 5 ballons perdus. Moi, je suis désolé, quand on parle d'exigence, et tout ce qu'il a eu l'année dernière, et tout ce qu'ils ont eu l'année dernière, parce qu'il n'y avait pas que Barcola, tous les autres, c'était qu'ils étaient ultra exigeants. Ils pouvaient rater, tu peux rater, c'est arrivé à tout le monde de rater des face-à-face, de rater des contrôles, de rater des 1 contre 1. Il n'y a pas de problème de rater ta passe, parce que c'est arrivé. Mais quand ça t'arrive une fois dans un match, le haut niveau, c'est ça. L'exigence, c'est ça. Ça t'arrive une fois dans un match, le deuxième ballon, vaut mieux le réussir. Ça peut arriver de le perdre une deuxième fois de suite. Mais la troisième, c'est fini. La troisième, tu joues simple, tu rassures tes coéquipiers. Mais non, en fait, ils s'entêtent. Mais cinq ballons de suite.
Ouais, c'est le seul qui a fait des différences hier. Mais tu l'as plus vu que Ramos hier, désolé, Bradley Barcola.
Mais Ramos, moi j'ai de la peine pour lui. Ramos, peine, c'est un numéro 9. Mais mets-lui des ballons, mets-lui des centres. Qui c'est qui lui a mis des centres hier? Zaïre Emery quand il déborde, quand Barcola déborde. T'as vu les parpaings qu'ils ont envoyés?
Non, mais les gars. Tir, c'était pas mal.
Non, mais les gars, arrêtez avec Ramos. Moi, Ramos, il m'a fait de la peine hier. Parce que Ramos, il peut jouer 3 heures. Il ne marquera jamais un but avec des joueurs qui prennent pas d'initiative. On parle de Maiolo, on parle de Ruiz. Vous avez vu les parpaings de Ruiz? Alors Ruiz, magnifique, champion d'Europe. Il nous a tous bluffé l'année dernière. Et moi le premier, avec toutes les critiques qu'on avait pu faire.
Est-ce qu'il va échapper un petit peu la seconde de l'âme là?
Vitinha.
Allez-y. Donc c'est pour ça que c'est embarrassant vu le niveau de certains joueurs. Capitaine. Mais continuez à dire que c'est pas grave.
Alors.
Mais t'énerve pas, personne n'a dit que c'était pas grave.
Bah si, Benoît.
Ou alors tu as entendu des voix. Non, mais moi, hier j'étais content parce que j'ai rajeuni d'un peu plus d'un an et je vais vous expliquer pourquoi. Mais on va rester sur les deux derniers matchs du Paris Saint-Germain. C'est vrai, Jérôme, que s'ils refont ce match 10 fois, ils le gagnent 10 fois, le Paris Saint-Germain. Le match d'hier.
Ça, c'est le foot. Hein.
C'est, oui, mais bon, ce sont des choses qui arrivent et c'est pas par hasard si le meilleur joueur hier du Paris Football Club, c'est Cambadio, le gardien de but. Ce qui est plus problématique, c'est le match d'avant. Hein.
Contre l'OM, le match trophée d'avant, des champions.
Dans le trophée des champions, ils n'ont pas dominé de la tête et des épaules. L'Olympique de Marseille qui était en crise, qui venait de se faire battre par Nantes. Et là, à l'inverse, le meilleur joueur du Paris Saint-Germain, ou l'un des meilleurs joueurs, en tout cas le héros à la fin, c'est quand même le gardien de but. Donc, je pense qu'il y a, matière à être inquiet. Il y a matière à être inquiet. Et moi, je retrouve aujourd'hui, je dis que je rajeunis d'un an, parce qu'il me semble, Jérôme, que ce Paris Saint-Germain du début de saison
de cette
saison 25-26 ressemble étrangement et ronronne de la même manière que ronronnait le Paris Saint-Germain du début de saison 24-25 jusqu'au match contre Manchester City.
J'ai pas l'impression,
la fameuse analogie de Jean-Michel Larquet jusqu'au 22 janvier et ce match.
Tu sais pourquoi j'ai pas la même impression que toi. Je vais te dire, je te coupe juste là-dessus, c'est que collectivement, moi j'ai participé à tous les matchs au Parc des Princes, donc quand t'es au parc, tu vois un peu plus les choses qu'à la télé, ça c'est sûr. Et je trouve que collectivement, c'est beaucoup moins bien huilé que l'année dernière.
Alors si j'ai rajeuni d'un an, c'est peut-être que j'ai rajeuni de plus d'un an. Alors tu me diras,
je te rends compte,
c'est
Jean-Michel.
Le moment où on se posait des questions sur l'efficacité de cette équipe. Mais en tout cas, je n'ai trouvé dans cette équipe aucun changement de rythme, par exemple, Jérôme.
Oui, voilà, c'est vrai. C'est l'euphorie que je parlais sur la première mi-temps.
Incontestablement, c'est pas par hasard que j'ai utilisé ce verbe. Ça ronronne. Alors, de temps en temps, ils ont des occasions de but
exceptionnelle, la tête décroisée de Zabarni.
Zabarni, on peut en parler aussi.
Plutôt que de décroiser les têtes, Jérôme, je pense qu'il ferait mieux de faire des têtes. C'est tout simplement.
Bah, Zabarni, quand tu gagnes pas un duel contre les attaquants du PFC pendant tout le match, parce que j'ai regardé hier, au lieu d'envoyer aussi lui des parpaings en tribune, parce que j'ai failli en prendre deux sur la tronche
en
avec ses relances.
Notamment, j'ai pensé à toi, t'étais pas loin, je pense.
Franchement. Bon. Vas-y, Jean-Michel.
Parce que quand il décroise les têtes, il ne touche pas le ballon. Il les fleure. Je pense qu'ils ont ramené, le coiffeur leur a interdit de frapper pour la mèche, je sais pas quoi. Mais.
On respecte ceux qui ont des beaux cheveux quand même.
Et qui ont des cheveux. Il y en a qui n'en ont pas, n'est-ce pas? Et qui changent de couleur même quelquefois, qui se les font teindre pour se donner une petite.
Pourquoi d'ailleurs? On se pose la question.
Je ne sais pas pourquoi. Ouais. Mais sincèrement, Jérôme, je suis inquiet s'il n'y a pas un retour à ce qui a fait la force du Paris Saint-Germain à partir de janvier 2025. C'est-à-dire qu'il faut qu'il faut pas qu'ils comptent uniquement sur leur qualité technique. Il faut quand même qu'ils mettent du rythme, de la pression, tu l'as dit, avec une pression. Bon, hier même sans être très performant, le Paris Football Club a eu des pires difficultés.
Non, mais c'est normal, Jean-Michel, on parle du Paris Football Club. Ils sont à deux points de la relégation en Ligue 1.
C'était leur seule façon de gagner, de jouer comme ça.
Mais aujourd'hui, alors je ne sais pas si c'est l'entraîneur qui va leur dire ou si ce sont les joueurs qui vont se le dire entre eux, mais il faut qu'ils reprennent les bases de ce qui a fait leur succès l'an passé, c'est-à-dire retrouver de la verticalité, de la vitesse et un petit peu d'agressivité dans les actions finales.
Et de la qualité technique, parce que l'exigence, elle part de là, Jean-Michel. Moi, quand j'entends les joueurs... Alors, bien sûr que le joueur, il vient en conf de presse, on est passé par là aussi. Tu vas pas aller démonter tout le monde parce que t'as perdu contre le PFC un match de Coupe de France. Ok, tu protèges un peu le collectif, tu te protèges toi et tout ça. L'entraîneur, qu'il ait le discours comme ça en disant « Ouais, on a frappé 25 fois, on aurait dû... » Comme tu l'as dit, Jean-Michel, on aurait dû gagner le match, on le refait 10 fois, peut-être qu'on le gagne 9 fois. Là, on le perd sur un fait de jeu. Sauf que, à côté de ça, t'as quand même des manques. Et des manques, en termes, tu l'as dit, de rythme, de concentration, et puis surtout de qualité technique. Parce que, franchement, j'ai vu des erreurs techniques. Là, encore une fois, Barcola est devant nous. T'étais à côté, t'es pas loin, Benoît. Quand il a un ballon à mettre, tu critiques Gonzalo Ramos. Il a un ballon à mettre pied gauche. Franchement, on parle de Barcola, il est champion d'Europe. Hein. Oui. Donc moi, je parle pas d'une équipe du Paris FC où tu peux accéder. Il t'envoie un ballon, mais il est à 3 mètres de là où il doit le mettre, dans les pieds du défenseur. Et Gonzalo Ramos qui fait le bon appel, sûr que là, on le voit pas sur l'appel.
Mais
tu sais, à cause de cette action-là, les gars, je vous le dis, pied gauche, je suis rentré avec un seul pied. Parce que je lui ai balancé ma chaussure sur le terrain.
Ah bah super.
Voilà, je lui ai dit, allez, vas-y, prends-la, au moins tu la mettras à la phase décisive.
Mais la différence avec toi, c'est que je préfère quelqu'un qui se bouge, qui fait des différences, qui t'a raté le dernier geste, plutôt que quelqu'un qu'on voit pas pendant 90 minutes.
Jérôme, tu sais que.
Après, Steve, parce que Steve, on l'a pas entendu encore.
L'action symbolique du manque d'engagement. Alors, vous allez peut-être pas vous en rappeler, mais je pense qu'elle va vous revenir. À un moment donné, il reste 10 minutes à jouer. Et Barcola, décidément, on le prend et c'est lui qui déguste ce soir. Barcola est à la lutte avec le petit arrière droit qui s'appelle Sangui, je crois.
Il a
l'avantage dans la course, dans l'attitude, dans la position, dans la taille et sur le côté droit à l'entrée des 18 mètres, il se fait encore piquer le ballon alors que c'est lui qui doit l'avoir. Mais il pense que comme il s'appelle Barcola et comme il a le maillot du Paris Saint-Germain, il va l'avoir le ballon. Non, Barcola, il faut que tu te battes pour l'avoir le ballon parce que le petit arrière droit du Paris Football Club, il va pas te laisser,
Est-ce que c'est une faute professionnelle alors?
Je mets les pieds dans le plat. Hein. Ouais, c'est une faute professionnelle parce que on parle que le gardien Cambadio il fait un match extraordinaire. Oui, mais combien d'occasions où le ballon ne pas cadré. même jusqu'à la dernière tête à la 96e minute.
Ouais, de Doué, là. Ouais.
Doué, oui. Franchement, honnêtement, Jérôme.
C'est coincé.
Là, il se croit qu'il est à 1 mètre du but, je crois.
Il y a 16 frappes non cadrées par Paris.
Non, il n'est pas à 1 mètre du but. Il est...
Allez, dans les 5-50.
Ouais,
honnêtement,
bon, après, moi, si tu la mettre à côté, je ne vais pas lui donner une leçon. Là,
non,
je te laisse faire.
Bon, il n'y a pas de souci. Mais la mettre à côté. En plus, que honnêtement, Cambadio, là, il fait une erreur parce qu'il ne sort pas. Il ne va pas au duel, il reste sur sa ligne.
Ouais.
Honnêtement, c'est plus difficile de la mettre à côté. Moi, pour moi, c'est l'action qui résume le match. Parce que, et Jean-Michel le disait tout à l'heure, c'est que moi, j'avais déjà une petite alarme sur le match contre Marseille il y a une semaine. Ouais, ça passe.
Il est plus inquiétant, celui-là.
Ça, c'est un bon débat.
Mais il est
ça
plus passe. Inquiétant parce qu'il y a plus d'adversité. Le niveau de l'OM est supérieur au PSG.
Exactement. Ouais. Il y a plus d'adversité dans le jeu, dans la culture du jeu. Pas de problème. Par contre, là, hier, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu une équipe du PSG qui n'est pas à son niveau. Et le problème, c'est qu'on les compare par rapport à leur niveau de l'année dernière et ce qu'ils ont réussi à faire pendant 6 mois.
Aux six derniers mois.
Mais les mois d'avant, Jérôme, je pense que tu étais le seul ou quelques-uns à ne pas vous alarmer sur les mois d'avant.
Mais oui, parce que je voyais des choses que vous n'avez pas vues.
Par contre,
là, est-ce que tu les vois, ces choses?
Exactement. Ouais. Par contre, bah, tu avais
Louis Enrique. Je vais te dire l'inverse.
Louis Enrique a réussi. Pendant cette trêve hivernale de décembre, pendant les mois de janvier, février, à monter en puissance. Moi, je le dis honnêtement, le PSG a gagné le Graal en 24-25, a gagné la Champions League. Moi, je suis très alarmiste sur leur saison et sur le futur assez à court terme. Moi, je ne les vois pas. Les mecs concentrés.
Tu crains une saison blanche, Stevie?
Oh, moi, je te dis honnêtement, j'ai même peur. Là, on va parler de Marseille tout à l'heure. Mais ceux qui ont une plus grosse saison à faire, moi, je le dis à aujourd'hui, c'est Lens. Ils peuvent viser le titre, la Coupe de France.
Oh.
Et ce que je vois hier avec le PSG.
Enfin, il manquerait plus ça pour l'OM, si c'était le cas.
Non, voilà, mais je le dis, parce qu'on va en parler de l'OM. mais ce que je veux dire, c'est que quand tu regardes le PSG hier, honnêtement, personne ne met le pied dans le plat depuis 24 heures, à peine 24 heures.
Ah, bah si, la preuve,
on est dans le
enfin,
mais
enfin, consultant courageux sur RMC, parce merci qu'on a vu.
Ce qu'on a vu très positif l'année dernière. Marcola, il sautille. Il sautille, Jean-Michel, il l'a dit tout à l'heure, il se fait piquer la balle aux 18 mètres. L'année dernière, il passait le bras. Il allait jusqu'au bout. Là, tu regardais Dembélé. Hier, quand il fait le crochet, il fait le crochet pied gauche. Mais non, normalement, il faisait un crochet à droite, et après, il y avait trois joueurs dans la surface, il leur mettait une feinte, et il marquait. Aujourd'hui, le PSG n'est pas au rendez-vous, n'est pas dans son
Non, mais on les entend plus, Jérôme et Jean-Michel.
Non, mais Steve, même si t'es.
Attends, ils ont gagné la Ligue des Champions, qu'est-ce que tu veux
dire? Steve, même si t'es. Même si t'es à l'excès, et que moi, je suis pas Madame Irma pour savoir s'ils vont faire une saison blanche ou pas, je dis juste un peu comme toi.
Alors, suis pas loin de le penser.
Mais un peu comme toi, que en effet, si tu te poses pas les bonnes questions et si tu te remets pas en question comme il se doit, en effet, tu vas avoir des déconvenues. Parce qu'aujourd'hui, en fait, ce qui n'est pas que sur la défaite d'hier, parce que c'est la Coupe de France et t'as le droit de perdre un match contre le Paris FC, te faire surprendre comme
tâche.
C'est le cas. Mais
ça fait tâche, le derby,
dans le match 5 jours avant contre Marseille, tu dois pas le gagner. Tu gagnes de la façon gagnes, hein. Voilà. La semaine d'avant, tu joues le PFC chez toi, où tout le monde nous dit après la trêve, les vacances, la nouvelle année, on va récupérer tout le monde. Là, c'est une nouvelle saison qui commence. Bon. Les trois matchs de suite du PSG, c'est là que pour moi c'est embarrassant. Pourtant, il y a deux victoires, un match nul avec la victoire au pénalty au Trophée des Champions. Il y a la victoire au match de championnat contre le PFC et donc la défaite d'hier, mais dans le contenu, c'est largement insuffisant.
Exactement.
Et que les échéances, elles arrivent vite.
Et oui,
parce qu'aujourd'hui,
et
je finis là-dessus, et pour aller dans le sens de Steve, tu vas recevoir des équipes. Regarde le match de vendredi. Tu vas recevoir Lille. Lille, ils ont perdu contre Lyon.
Lille, ça va mal.
Ok. Non, mais ça va mal.
Mais Lille,
en termes d'effectifs et de qualité de joueurs, c'est bien supérieur aux joueurs du PFC. Ça, on est d'accord. Des gros matchs de Lille, il y en a déjà eu. Et à l'extérieur, ils sont chiants à jouer. Ils ont joué des matchs d'Europa League, de Coupe d'Europe, des gros matchs de championnat. Même si ça va moins bien, Lille est capable d'élever son niveau. Je suis pas sûr aujourd'hui avec ce que je vois que même si le PSG focus sur ce match vendredi, que le PSG se balade. Et attention, si tu gagnes pas le match de vendredi contre Lille, tu peux rentrer dans une mauvaise dynamique.
Auxerre et
non, mais en Ligue des Champions, ils sont à l'abri, tant mieux pour eux. Ils ont fait un bon parcours à défaut d'être incroyable. Bon. Ils ont fait un bon parcours en Ligue des Champions et ils sont déjà qualifiés. Après, est-ce qu'ils seront dans les 8, dans les 4 ? Ça, avec ce qu'on voit, on a des doutes.
Arthur Perrault qui est venu dans ce débat de Rotten sans flamme. Un grand merci à Steve Savidan qui a réveillé les dinosaures Jean-Michel Larquet, Jérôme Rotten.
Les dinosaures.
Bravo, Steve, t'as été excellent. Et dans un instant, on ouvre le procès de Florentino Pérez. On parle du Real Madrid. Florentino Pérez accusé de donner beaucoup trop de pouvoir aux joueurs du Real. A tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à 20h.
Rotten sans flamme.
Benoît Boutron, Jérôme Rotten.
18h30 sur RMC, on est là, on est bien dans Rotten sans flamme. La deuxième demi-heure avec Jean-Michel Larquet, avec Steve Savidan et avec Benoît Boutron. Dans 15 minutes, on va recevoir Ilan Kebal. La patte gauche, elle est là, elle a tourné hier. Il a fait gagner le Paris FC. Exactement. Magnifique. Et,
on a du mal à le dire, Jérôme.
De quoi?
Le Paris FC, t'as du mal à le dire.
Bah oui, c'est pas naturel, comprenez-le. C'est une légende du Paris Saint-Germain, forcément. Forcément qu'il a du mal à dire Paris FC.
Dans la plus belle ville, dans la plus belle ville du monde, deux grands clubs.
Ouais.
Bah oui, il était temps quand même.
Ouais. Ben bah, Ilan Kebal, tu l'apprécies en plus. On l'avait déjà reçu, donc il viendra nous parler de cette.
Le Red Star, non.
Bah, le Red Star, ils ont qu'à être en Ligue 1, on leur parlera de grands clubs. Et bon. Ouais.
Après, allez, on y va.
Lusitanos. Non, on a dit pas le foot amateur ici.
Et ben pourquoi pas. Bah si, on peut.
Pourquoi pas?
Ça manque.
Pourquoi?
Bah
oui.
Ouais.
C'est quoi, ça manquerait?
Et le Paris 13 Atlético, il y en a des clubs à Paris.
Exactement, mais c'est pour ça qu'on le fera dans Rotten sans fou, il n'y a pas de souci.
Voilà.
Pourquoi pas?
Eh ben, tu sais quoi, tu devrais faire une chronique de Rotten sans fou.
Non, mais c'est on l'a fait, On l'a fait, et t'interviens souvent. Ouais. Tu t'en rends même pas compte.
Je t'envoie un message pour te dire exactement ce que j'ai envie de te dire, mais pas à l'antenne.
Ah, mais oui, t'as loupé ça, au fait, quand t'étais pas là la semaine dernière. Stevie a fait des notes un jour. Bah, va réécouter ça en podcast.
Ah, bah oui, il faut que je le fasse.
Des notes incroyables.
Non, mais pourquoi vous faites ces choses-là pour mettre l'émission en péril?
J'ai mis 9,5 à l'émission sur 10.
Je t'ai envoyé le message, Jérôme. C'est bon.
Bon, allez, on y va, on attaque le procès.
RMC, Rotten sans flamme.
Moi, je reviens toujours à ça. Et tu as soulevé le loup. On l'a vu lors de sa présentation au stade Bernabéu. Bah, c'est pas forcément florichon un petit peu pour notre Ligue 1.
J'en ai trop.
Le procès de Rotten sans flamme.
Changement d'entraîneur.
On embrasse Bernabéu.
Voilà, Bernabéu, on l'embrasse, tout à fait. Xabi Alonso n'est plus l'entraîneur du Real. Il a été licencié donc 6 mois après son arrivée, au lendemain de la finale de la Supercoupe d'Espagne, que le Real a perdu 3-2 face au Barça. Il y avait beaucoup de promesses lorsque Xabi Alonso est arrivé. Promesses rapidement envolées. Décision du président Florentino Pérez. Les arguments avancés par la presse espagnole, écoutez bien. Manque d'harmonie autour du projet de jeu, état physique de l'effectif et relations tendues avec Vinicius. D'ailleurs, toujours cette même presse espagnole dit que les négos pourraient reprendre vu que Xabi Alonso est parti entre Vinicius et le Real. Je vous livre juste les premiers mots donc d'Arbeloa, le nouveau coach madrilène. Nous avons une équipe de gars prêts à tout, conscients des exigences du Real. Tous les joueurs repartent de zéro, c'est un nouveau départ, ils sont tous très motivés. Voilà, crac, ça repart à la guerre au Real. Ouvrons donc le procès de Florentino Pérez ce soir.
Il y a des combattants. Il y a des
on va voir ça. Attention. Est-ce qu'il y a des guerriers, des gladiateurs dans cette équipe du Real? Florentino Pérez, accusé de donner trop de pouvoir aux joueurs du Real. Le procureur, c'est Jean-Michel Larquet. Bonsoir.
Bonsoir.
Deux avocats pour le président madrilène. Monsieur Rotten, bonsoir.
Bonsoir.
Et Maître Savidan, bonsoir.
Bonsoir, mais j'étais pas sûr quand même.
Commis d'office alors.
Commis d'office, ouais.
Okay. Ouais. Ouais bah on va pas te faire parler.
L'aide juridictionnelle, okay. L'aide juridictionnelle de Pérez.
Le verdict sera rendu par Yannick, supporter du Real au 32-16. Salut Yannick.
Allez, bonsoir messieurs.
Adios, Sonia.
Bienvenue.
Mais je vais peut-être me mettre avec Jean-Michel.
Oh, mais c'est pas possible. Bon, vas-y Jean-Michel, lance le procès. Qu'est-ce que tu reproches à Florentino Pérez alors?
Écoute, je reproche d'abord à Florentino Pérez aujourd'hui d'avoir oublié que le Real Madrid était le plus grand club du monde, essentiellement par la qualité de son équipe. Et il me semble que depuis quelques mois, il a oublié ce principe même que on a beau avoir un beau stade, on a beau avoir un bon public, on a beau avoir beaucoup d'argent. Ce qui est important, c'est la qualité des joueurs et la qualité de l'effectif. Et incontestablement, il n'y a pas un madrilène aujourd'hui qui est content de l'effectif du Real Madrid. Et j'accuse Florentino Pérez de s'être désintéressé de ce qui fait l'essentiel du Real Madrid, c'est-à-dire l'équipe de football et l'équipe première. Pour quelle raison ? Mais parce qu'il est occupé par des tas de trucs, Florentino Pérez. Il était occupé par le stade, la construction de stade. Et Florentino Pérez, aujourd'hui, il est en guerre contre tout le monde. Vous l'aurez quand même remarqué.
Oui.
Que ses combats, ses préoccupations premières, c'est pas le football, c'est pas son équipe première. Il est en guerre contre la fédération, il est en guerre contre l'UEFA avec la Super League, il est en guerre avec les arbitres, il est en guerre avec le FC Barcelone, il était en guerre avec le Paris Saint-Germain, il est en guerre avec tout le monde. Et moi, ce que je reproche aujourd'hui à Florentino Pérez, auparavant, il y avait au moins, quand il y avait l'institution et l'équipe, et quand l'équipe marchait moins bien, tu disais, l'institution est tellement forte qu'à un moment ou un autre, ça va revenir dans la norme. Mais aujourd'hui, Florentino Pérez est quelqu'un qui est esselé, et il a oublié quand même que... Comment comparer les équipes, les défenses avec Carvajal, Marcelo, Ramos et Varane avec la défense actuelle? Ça, comment comparer le milieu de terrain de Modric, Kroos avec le milieu de terrain actuel?
Ouais, mais je veux joueurs, bien.
Quand?
Bah, au Real. Il y a Valverde, Tchouaméni.
Non, mais je te dis pas que ce sont des mauvais joueurs. Je les compare par rapport à d'autres joueurs.
Bellingham.
Je les compare à d'autres joueurs. Et si tu demandes à un supporter madrilène s'il préférait le milieu de terrain d'avant à celui d'aujourd'hui,
bah là oui, bien sûr. On verra.
Il va falloir que tu me le présentes.
Alors,
Benoît.
D'accord.
Donc Florentino Pérez, il a oublié l'essentiel. L'essentiel au Real Madrid, c'est la qualité de l'effectif. Et cette qualité, elle n'est plus celle qu'elle était.
Un soutien inattendu, puisqu'on a un deuxième procureur avec Steve Savidan, alors.
Alors, je vais valider tout ce qu'a dit Jean-Michel. Mais en plus, surtout, c'est que il veut trop plaire aux stars. Le club, il perd quand même de son autorité. Dans les très, très gros clubs, comme le plus gros club du monde, le plus grand club du monde, le Real Madrid, personne n'est au-dessus de l'institution, que ce soit les joueurs, mais que ça soit aussi le président qui est élu avec les socios. C'était un fonctionnement assez particulier. Puis les entraîneurs, ils font quoi? Ils gèrent des égos. Alonso, il l'a dit. Il l'a dit, c'était une crèche. J'avais l'impression de gérer des gamins. Alors le problème, c'est les gamins, si tu leur donnes pas d'objectif, si tu leur donnes pas de ligne directrice, c'est-à-dire gagner des titres, Jean-Michel l'a dit, c'est qu'à force d'avoir des combats qui sont partout, mais qui ne sont pas sur le terrain, sur les résultats et les trophées, au final, c'est un bordel. Les joueurs, ils ont perte de repères, perte d'institution. Moi, je crois qu'honnêtement, c'est un gros déséquilibre pour le club, pour le vestiaire surtout. Parce que ces grands champions qui sont dans cette équipe, même si Jean-Michel, je suis d'accord avec lui, on ne peut pas les comparer avec ces dernières équipes qui sont passées au Real Madrid, les dernières décennies, milieu de terrain, défenseur. Mmh. C'est sûr, on ne peut pas les comparer parce qu'ils ont tout gagné. Par contre, ces joueurs... en fait, ils deviennent à aujourd'hui intouchables sans avoir pratiquement rien gagné. D'accord? C'est peut-être des très grands joueurs. Je crois que le Real de Madrid doit remettre les projets sportifs au cœur de leur projet de club.
Alors, parole à la défense, Maître Rotem.
Moi, je suis pas en contradiction avec tout ce qu'a dit Jean-Michel et Steve en confirmant, mais
en substance.
En fait, j'étais hier quand on a appris que Arbeloa arrivait et que Xabi Alonso était démis de ses fonctions. J'en voulais, c'est un grand mot, au président. Je me suis dit, mais attends, il part avec un objectif de changer les choses dans le vestiaire.
La saison est morte.
Et au bout de 6 mois, il lâche son entraîneur sous prétexte que t'as perdu encore un match comme l'année dernière contre Barcelone.
Entraîneur qui était vendu révolutionnaire, ouais, qui avait réglé tous les problèmes.
Il y a une vraie différence et tout ça. Mais pour moi, un entraîneur, déjà, une durée de vie limitée, mais pour mettre quelque chose en place et changer une structure structure de séance d'entraînement, une structure tactique et les mentalités, parce que si certains s'étaient endormis avec Carlo Ancelotti, on l'avait senti l'année dernière, et pourtant c'est Carlo Ancelotti, hein, pas n'importe quel entraîneur qui a déjà tout gagné, la saison dernière du Real était insuffisante. Donc je te disais, mais il est complètement taré, Pérez, et ça fait un bout de temps qu'on sait qu'il est sur la sellette, Xabi Alonso. Et puis après t'as le regard, les infos de Marca aujourd'hui du vestiaire et des joueurs. Et moi, je crois en effet ce journal espagnol qui est à la pointe et qui se trompe rarement et qui nous fait donc aujourd'hui des révélations en disant que les joueurs, ils faisaient ce qu'ils voulaient, ils s'entraînaient quand ils voulaient. Que physiquement, quand ils avaient pas envie de bosser physiquement, bah ils bossaient techniquement, et que l'entraîneur, bah il les accompagnait. En fait, c'est un accompagnant, c'est pas un entraîneur, c'est pas quelqu'un qui est entraînant. Pourtant,
il aurait
c'est
dû être préoccupé c'est... par ça quand même, Florentino Pérez.
Oui, mais Jean-Michel, ce que je veux dire, c'est que si tu baisses, t'es Xabi Alonso. T'es venu avec des grandes phrases. C'est pas moi, hein, c'est lui qui l'a dit. Je vais les faire courir. Rappelez-vous, la Coupe du Monde des Clubs. On va presser, on va changer. Et même si on a pris une claque contre le PSG, il y a des satisfactions. Il y a des joueurs qui ont gagné certains statuts, d'autres qui ont été rétrogradés, comme Vinicius et d'autres. Tu vois, le cas de Hendrik, il s'est fait dépasser par Oscar Garcia parce que Oscar Garcia, il a brillé à la Coupe du Monde des Clubs. Bon, ce que je veux dire, Gonzalo Garcia. Et ben à l'arrivée, ce qui s'est passé, c'est que très vite, il a baissé les armes, il a laissé les joueurs se gérer, et forcément, ben là, tu prends dans la tronche. Tu payes pas un entraîneur comme Xabi Alonso aussi cher pour que, au bout de quelques semaines, il baisse les armes, et il dit bon, bah écoute, je vais faire comme les autres. En fait, ils sont en autogestion. Mais ce groupe, et Jean-Michel vient de le dire, c'est que ce groupe ne peut pas être en autogestion. Ces joueurs-là ont tout gagné. Mais pour regagner, il faut déjà que, individuellement, ils se remettent en question et ils performent. Mais c'est un peu... Alors, attention, on n'en est pas à ce niveau-là au Paris Saint-Germain. Mais quand tu gagnes tout sur une année, j'imagine que c'est difficile de se remettre en question et de remettre le bleu de chauffe. Et ben, les joueurs du Real ne le font pas assez. Donc, pour moi, je condamne Xabi Alonso.
Bon.
Peut-être que le prochain entraîneur, il aura les corones, comme on dit là-bas, de mettre le bleu de chauffe et de mettre au milieu toutes les contradictions des joueurs. Mais je suis pas sûr qu'Arbeloa, il ait les épaules pour
qui
le faire.
Qui remporte ce procès, la team Larquet-Savidan ou Jérôme Roten, qui a plutôt attaqué Xabi Alonso?
Si vous me permettez deux secondes, déjà, parce que je suis aussi supporter de Montpellier, je voulais avoir une petite pensée pour Roland, ça m'a rendu très triste hier. Donc,
exactement.
Voilà. Alors, je vais donner raison à Jérôme sur ce procès, pas que Steve ou Captain ait tort, parce qu'effectivement, Florentino Pérez est coupable, comme les joueurs sont coupables, mais Xabi Alonso est lui aussi coupable. Ça fait 7 mois qu'il entraîne l'équipe, on n'a strictement rien vu, on a pris une branlée contre le PSG, une branlée contre l'Atlético, on n'a pas touché terre contre Liverpool, il n'y avait rien dans le jeu. Je pense que son bilan est même masqué par le fait que tu avais Mbappé et Courtois qui lui ont permis de surnager pendant de beaucoup de matchs. Et voilà, j'aurais bien aimé que ça marche Xabi Alonso, mais ça n'a pas marché. Est-ce que c'était humain? Je sais pas après Marca, ce que dit Marca et tout ça, mais est-ce que c'était humain? Est-ce que c'était tactique? Je pense juste qu'il n'avait pas les épaules encore pour entraîner le Real. Même si effectivement l'effectif est mal construit, mais là c'est sûr qu'il fallait arrêter parce que je pense que là
c'est pas là qu'il faut commencer.
Donc, bonne raison à Jérôme. Merci Yannick.
Merci Yannick. Et Steve, tu vois, la girouette.
Steve, t'as pas fait tourner ta veste. Steve, c'est dommage, t'avais bien démarré, puis là t'as.
Il tourne ça, ça y est.
T'as rechuté.
Allez, la note était élevée. Hein,
dans un instant,
note.
Allô Jérôme, Ilan Kebal avec nous au lendemain de l'exploit du Paris FC. À tout de suite.
RMC, 18h-20h. Roten sans flamme.
Benoît Boutron, Jérôme Roten.
18h40, tu vois, on est là, on est bien. J'ai mis un coup dans le micro. Et oui, j'ai perdu l'habitude. Le micro, il est grand, le micro, non?
Là, tu le tiens comme un crooner en plus.
Ouais. Je vais peut-être faire l'émission micro à la main.
Pourquoi
Bon, Danny Briand.
On est avec Steve Savidan. C'est pas Danny Briand, hein, depuis le début de l'émission.
Oh, c'est Steve Briand.
Ouais, on est avec Jean-Michel Larquet, avec Benoît Boutron. Après 19h, Benoît.
Ah, est-ce que la Coupe de France doit devenir une priorité, la priorité pour l'Olympique de Marseille ce soir? C'est Bayeux OM à suivre sur RMC.
Bon, là on est sur l'A6 hein, pour Marseille.
Ah bah là, apparemment,
A6 à 7 là,
droite gauche.
Bah, Ah, direct. Non, à 7, à 6, parce que c'est dans ce sens-là, ouais. Pour remonter sur Allez. Paris. C'est pas loin du Stade de France.
On part à 19h, mais accueillons le héros de la soirée.
Sur la fenêtre.
Allez, salut à l'Ogéron.
Ah oui.
RMC, Rotten sans flamme.
On reste dans la surface de l'OM avec Dylan Kebal. Oh là là, le but. Dylan Kebal, le premier but en Ligue 1 pour le Paris FC depuis 46 ans. Et là, Rouli ne peut rien sur cette lucarne. 2-1.
Allô, Jérôme.
Un ami de Rotten sans flamme, Dylan Kebal, est avec nous.
Salut, Dylan.
Bonsoir, bonsoir à tous.
Salut, Dylan.
Ça va et vous?
Bah écoute, ouais, tu nous as manqué avec la Coupe d'Afrique. Hein. Ah, ouais, besoin de te retrouver là dans le championnat de France, Coupe de France. En tout cas, c'est bien reparti. Hein.
Ouais, franchement, ça fait du bien de rejouer.
Ah là, t'as fait jouer.
Et t'as bien fait de rentrer parce que t'es passé à décisif pour Iconé hier.
Hein. Explique-nous, tu peux nous expliquer un peu le plan parce que bon, ça fait deux matchs de suite, t'as pas participé au match de championnat parce que t'étais avec l'Algérie, mais le plan de l'entraîneur parce que deux fois ça a failli fonctionner, ça a fonctionné hier et même en championnat vous étiez pas loin.
Bon, en vrai, le plan c'était d'essayer de les gêner en essayant de presser, mais presser en bloc compact médian. Mais ensuite, plus le temps il avançait, plus on reculait, mais on faisait pas exprès parce que c'est leur niveau qui nous poussait à être dans notre surface. Et on savait que plus le temps il avançait, que s'ils ouvraient pas le score, on allait avoir une ou deux occasions parce que à la récupération, si on arrive à ressortir de deux trois passes, il y a beaucoup d'espace et on a eu de la chance d'avoir marqué ce but-là.
Ilan, c'est quoi, toi, pour découvrir le plus beau stade de France comme ça? Ça t'a fait quelque chose?
Non,
bah,
il ose. Ouais, non, Ilan,
franchement, il est magnifique, mais allez, pour moi, c'est quand même, ça reste quand même le stade Vélodrome. Ah,
non.
Ilan, dis-nous la vérité. Qu'est-ce que tu ressens quand tu es sur le terrain, que tu vois les changements à la 65e et que coup sur coup, tu vois rentrer Ousmane Dembélé, Désiré Doué et Nuno Mendes alors?
Non, c'est ce que je disais. C'est de la triche. Dès qu'on les voit rentrer, on dit c'est de la triche. En plus, ceux qui sortent, c'est des joueurs comme Pacho et Guevara. Non, c'est de la triche. Ouais. En plus, déjà, on souffre et on voit les trois rentrer. On s'est dit, bon, on va essayer de tenir et. Et au final, on a eu de la chance, hein, on va dire, parce qu'on a eu de la réussite et il en faut contre cette équipe-là, de toute façon.
Mais là, ça peut que vous rebooster. Alors, c'est vrai que c'est compliqué aussi en championnat. Vous avez deux matchs,
de Ligue 1, ouais.
Deux matchs à votre portée où il va falloir se rater. J'imagine que pour la confiance, c'est magnifique ce que vous avez réalisé hier.
Ah, Yann, t'es là?
Ah, ça y est.
Il va revenir, Yann. Eh oui, c'est vrai que le calendrier du Paris FC, on l'a dit, 15e de Ligue 1, 16 points, et les prochains matchs, c'est à Nantes et contre Angers. On l'a retrouvé, Ilan, Jérôme.
Ilan, ouais, je te disais. Ah,
il va revenir d'ici quelques secondes. Joueur que vous appréciez beaucoup aussi, Jean-Michel et Steve, Ilan Kebal. C'est la révélation du Paris FC sur ce début de saison, Jean-Michel.
Oui, il n'y en a pas eu beaucoup, hein. Je pense qu'ils ont essayé. Et c'est vrai que c'est un garçon que l'on a découvert, qui hier fait la différence. Au moment où il entre sur le terrain, il n'y a pas eu beaucoup d'assises. Il faut la mettre, la passe. Elle est bien dosée, elle est bien donnée, elle est bien amenée. Donc, quand tu rentres dans un match où les ballons sont très rares à toucher, parce que je n'ai pas regardé, honnêtement, je n'ai pas regardé la position, mais on doit être 70-30. Dans le 80-20, non ?
Ouais, 70-30.
Ah, je pensais que c'était pire. Ouais. Donc, quand tu as un ballon, il faut t'appliquer pour le garder. Et à un moment donné, je pense qu'ils ont passé. Ilan, est-ce que tu as senti que sur le terrain que les Parisiens se disaient, bon, de toute façon, ça va arriver, on va marquer avant que tu ne délivres cette passe décisive, ou même qu'ils se sont dit, on va égaliser, il n'y aura pas de problème. Est-ce que tu les as sentis sentis douter un petit peu?
Vas-y, là.
Je pense que à 0-0, ils étaient pratiquement sûrs qu'ils allaient marquer parce qu'ils avaient quand même beaucoup d'occasions, de situations. Et ensuite, c'est vrai qu'après le premier but, on marque vers la 75e. Là, ils se sont regardés et ils se sont dit qu'il fallait aller vite accélérer parce que, en plus, on sait qu'en Coupe de France, il n'y a pas de prolongation. Donc, là, on a senti qu'ils ont douté dès qu'on a marqué ce but, ils ont commencé à douter et ensuite, ils ont vraiment tous accéléré. Et après, comme j'ai dit, on a eu un grand gardien aussi hier qui a fait énormément d'arrêts.
C'est vrai.
Et comme j'ai dit, on a eu de la réussite. Et comme j'ai dit, il en faut contre ces équipes-là, sinon c'est compliqué.
Ilan, est-ce que ça vous donne quand même l'envie en Coupe de France de... de déjouer les pronostics et pourquoi pas de profiter du fait d'avoir sorti l'ogre parisien pour se glisser encore un peu plus haut.
Bien sûr. Hier à la causerie, le coach il nous avait dit carrément qu'il voulait qu'on se qualifie. Donc on n'était pas venu au parc pour on savait que ça allait être pratiquement mission impossible. Le coach nous avait dit qu'on voulait se qualifier. Donc encore plus maintenant, on a éliminé le grand favori et on est en huitième de finale et on sait très bien maintenant que ça, on va dire, ça ouvre la porte un peu à tout le monde, on va dire.
Il faut avoir un peu de chance au tirage.
Exactement.
Ilan, surtout.
Ilan, on peut titrer donc après ton intervention l'objectif du PFC, c'est de gagner la coupe.
En fait, on est en huitième de finale. Si on est vraiment compétiteur, bien sûr que l'objectif c'est d'aller au bout. Mais on sait qu'il reste quand même encore beaucoup de grandes équipes. Mais en tout cas, oui, on est en huitième de finale et on veut aller au bout. Ça, c'est une certitude.
Ilan, est-ce que tu as reçu des messages de tes potes marseillais qui t'ont dit merci surtout?
non, ça va. J'avais pas trop reçu. Bon.
Mais il a plus d'amis marseillais. C'est un Parisien.
Ça fait 4 ans que je suis ici. C'est vrai que.
Mais arrête.
Ils sont à Paris.
Mais je t'ai vu embrasser les cuissons du PFC et du PSG aussi à la fin. Non, c'est beau. Bravo, Ilan.
On est obligé de parler de
Ilan. Ouais, on est obligé de.
La Coupe d'Afrique, bien sûr.
Ouais. Alors, déjà, avant de parler de la Coupe d'Afrique, j'ai juste une question sur l'enchaînement des matchs. Vous viviez une période compliquée en championnat. Là, vous allez jouer deux équipes à votre portée. J'imagine que là, l'objectif, c'est vraiment de faire tourner le compteur là, sur ces deux matchs.
Bien sûr, exactement. Mais c'est pour ça que je pense que cette victoire va nous faire du bien, parce que ça faisait un moment qu'on n'avait pas gagné. Donc je pense qu'on était un peu en manque de confiance. Et là, on sait qu'on va se déplacer à Nantes et on sait que c'est un match à 6 points. On en est conscient et il faudra être présent parce que ça va être un match, je pense que ça va être le match le plus important de notre saison ce week-end.
Et oui, on est obligé de te parler de la Coupe d'Afrique. Alors,
l'Algérie
c'est sûr que
sorti en quart de finale par Nigeria 2-0.
Oui, après, c'est pas grave de dire que le Nigeria a gagné logiquement ce match-là. Comment tu l'as vécu, cette compétition? J'imagine que pour toi, c'était un rêve de gamin de pouvoir participer à ce genre de compétition.
Non, franchement, c'était incroyable. On a été mis dans les meilleures dispositions. Les terrains, c'était incroyable. C'est vrai que les supporters, ils étaient nombreux. Et ensuite, on a réussi à se qualifier. Ça faisait deux ans deux compétitions qu'on passait pas les poules. Et là, on est en quart de finale et on est tombé sur ce match-là contre plus fort que nous. Ils étaient clairement sur ce match-là. Voilà, ils ont été meilleurs, mais voilà, ça va nous permettre d'apprendre pour cet été, parce qu'on a une Coupe du Monde à préparer et il faudra être présent aussi.
Ilan,
un peu déçu quand même d'avoir joué que quelques minutes. Petkovic,
12 minutes, ouais.
Ouais, Petkovic, tu aurais pu te faire un peu plus confiance, non?
moi, comme j'ai dit, je répondrai toujours présent si le coach avait besoin de moi.
Je le dis pour toi, en fait.
Ouais.
Voilà.
Bien sûr, j'étais là et déjà, c'était une fierté d'être dans ce groupe. Après, en compétiteur qu'on est, on aimerait tous jouer titulaire. Hein. Ça serait mentir de dire le contraire. Mais voilà, j'ai pris ces 11 minutes vraiment à fond. J'attendais que ça. Et voilà, si le coach il aurait besoin de moi encore pour une, deux minutes, j'essaierai de répondre présent quoi qu'il arrive.
Il a dit un mot, qui va gagner la CAN?
Franchement, ça va se... Pour moi, c'est entre le Sénégal, le Maroc et le Nigeria, c'est les trois.
J'aurais rajouté les Égyptes aussi, comme ça au moins on est sûr.
On va rajouter Égypte, mais je pense Sénégal, Maroc peut-être.
C'est le Maroc, non?
Ah, Sénégal aussi, c'est vraiment costaud de ce que j'ai vu les joueurs.
Et quelle est l'équipe qui t'a fait la plus grosse impression, Ilan? Parce que visiblement, tu as l'air d'être dithyrambique sur le Nigeria. Là.
Non, le Nigeria, c'est vrai qu'ils étaient très très forts. Oui. Franchement, ils ont été meilleurs que nous sur ce match-là. Il n'y a pas photo, on va pas se mentir. Après, c'est vrai que Maroc, c'est pas le même match que contre nous, parce qu'ils sont chez eux, avec l'appui du public. Et on va dire ils sont un peu dans l'obligation de gagner. Ils savent très bien qu'ils sont chez eux, ils veulent gagner cette CAN. Donc ça va être un match 50-50 pour moi.
Bon, merci beaucoup
merci
en tout cas.
Merci à vous.
Je suis sûr que vous allez faire une belle Coupe du Monde avec l'Algérie.
J'espère.
Voilà. En tout cas, comme ça, moi, à la maison, ça se passera mieux.
Voilà.
Voilà.
pour les paris RMC.
Il a merci beaucoup. Tu es un habitué de Rotten sans flamme. Et voilà. Et en tant que parrain, tu vas revenir bientôt. En tout cas, je te souhaite d'enchaîner les bonnes perfs.
Allez, les demi-finales de la CAN demain. Sénégal-Égypte, 18h. Nigeria-Maroc, 21h. Dans un instant, Rotten se chauffe. Est-ce que la Coupe de France doit devenir la priorité de l'OM? 32-16.
RMC jusqu'à 20h.
Rotten sans flamme.
Retrouvez Rotten sans flamme en direct chaque jour dès 18h sur RMC.